ça, ça va montrer votre persévérance. Si vous dites juste je suis persévérant, ben, ça va rester qu'un mot. Si vous le justifiez, ce sera beaucoup plus pertinent.
Vendée Job, le podcast du podcast vendéen consacré à l'emploi en Vendée. Vendée Job.
Bonjour à tous et bienvenue dans Vendée Job, le podcast consacré à l'emploi en Vendée. Aujourd'hui, on va évoquer un thème important, l'entretien d'embauche. Comment bien se préparer, dans quel piège ne pas tomber et comment se démarquer. Les réponses à toutes vos questions avec notre expert Damien Simonet. Vendée Job épisode 3, c'est parti. Pour m'accompagner, j'ai donc le plaisir de recevoir notre coach préparateur mental, formateur, consultant et podcasteur, Damien Simonet. Bonjour Damien.
Bonjour Benjamin.
Damien, avant de parler de l'entretien d'embauche, juste un petit point. Il y a un nouvel épisode du podcast que tu as créé, Les Clés de la Sérénité. Nouvel épisode disponible évidemment sur toutes les plateformes, sur le site de ta société, Kaizen Consulting, mais également sur le site du podcast Vendéen. Tu peux nous détailler un petit peu le contenu de ce nouvel épisode ?
Bien sûr, c'est gentil. Le titre, c'est « Le courage de perdre ce qui rassure ». Et dans cet épisode, on parle d'un sujet inconfortable, c'est le courage de perdre ce qu'on a construit. Ça peut être un statut, une habitude, une façon de faire ce qui a fonctionné, mais qui nous retient un peu plus qu'on voudrait, en fait. Grandir, diriger, créer, transformer une famille, une équipe ou une organisation, ça demande parfois une décision difficile. C'est accepter de lâcher ce qu'on a construit pour aller vers quelque chose de différent, pour progresser, pour avancer. Voilà, on passe, je crois, 7-8 minutes autour de ce sujet-là, ce qui est de se dire, ben voilà, j'ai construit ça, est-ce que je suis prêt à lâcher un petit peu pour sortir de mon confort, pour aller explorer un peu toutes mes capacités.
Les Clés de la Sérénité podcast, je le disais, disponible un peu partout, notamment sur les plateformes habituelles de téléchargement et évidemment sur le site du podcast Vendéen. Aujourd'hui, on parle de l'entretien d'embauche, je le disais. Alors juste quelques chiffres, comme d'habitude, pour essayer de comprendre un petit peu le contexte avant de démarrer avec Damien. Sachez que chaque offre d'emploi en France attire en moyenne 250 candidats. Il y a seulement 2% des candidats qui postulent à une offre d'emploi qui sont sélectionnés pour un entretien d'embauche, donc c'est très peu. Le nombre moyen d'entretien avant d'obtenir une offre, c'est entre 10 et 20, avec une chance de 8,3% pour chaque candidature de passer à l'étape de l'entretien. Et le délai moyen entre un entretien d'embauche et une offre d'emploi, ça se situe entre 20 et 40 jours. Tout ça pour dire, Damien, que en fait, on est un peu lancé, quand on est en recherche d'emploi et qu'on est dans les candidatures, on est un peu lancé dans un marathon. Ça nécessite une préparation mentale et physique, et surtout beaucoup de patience. Hein.
Oui, de la patience pour trouver le bon job au bon moment, au bon endroit, et surtout être fidèle à ce qu'on veut, en fait, bien savoir ce qu'on veut et pas s'y lâcher et pas accepter tout et n'importe quoi. Même si ça a été long, même si ça a été difficile, c'est pas une raison pour tout accepter.
Et on va évidemment vous donner des clés aujourd'hui avec Damien. Déjà, quand on interroge un petit peu les recruteurs, il y a une clé qui est importante à décrypter, c'est la préparation. On n'arrive pas toujours très bien préparé, Damien, il faut le dire. Il y a une stat déjà qui est claire, il y a 47% des candidats qui échouent aux entretiens d'embauche parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment d'informations sur l'entreprise ou parce qu'ils ne sont pas allés chercher cette information. Comment on fait, en fait, Damien, dans un processus de candidature, pour bien se préparer à ce niveau-là, connaître les enjeux, le poste et l'entreprise?
Déjà, la première préparation qu'on peut se mettre en tête, c'est imaginer que l'entretien n'est pas un examen. L'entretien, c'est juste une rencontre entre deux personnes qui cherchent à savoir si ça va fonctionner ensemble. Trouver un emploi, c'est sûr, c'est hyper important pour la sécurité, pour les projets, pour l'équilibre de vie. Mais il faut aussi accepter une chose, c'est parfois ce poste n'est simplement pas le bon. Et bien se préparer, c'est ça, c'est ressentir tout ce qu'on va, tous les signaux formels et informels qu'on peut recevoir. Et bien se mettre en tête, un entretien, c'est du 50-50. L'entreprise va m'évaluer, mais moi, je vais aussi évaluer l'entreprise. Ça, c'est la première état d'esprit dans lequel on peut se mettre. Ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, la préparation, pour moi, c'est 80% de l'entretien. C'est comme dans un match, si on arrive et qu'on n'a pas étudié l'adversaire, si on ne sait pas comment il joue, ben on n'a plus qu'à se relier à la chance et on lance une pièce et on va bien voir ce qui va se passer. On peut se préparer à trois niveaux. Déjà, la fiche de poste, celle-ci, si on a répondu à une offre, on a la fiche de poste. On peut imaginer ressortir les cinq mots-clés qui vont être essentiels pour moi. Pas pour tout le monde, mais ceux qui vont être essentiels que pour moi. Et pour chacun de ces mots-clés que je vais ressortir de la fiche de poste, c'est m'imaginer avec des exemples concrets que moi j'ai pu vivre. La deuxième chose, c'est l'entreprise. Aujourd'hui, il y a tellement de réseaux possibles qu'il est possible d'aller voir le site internet, d'aller creuser quelles sont les activités précises, l'organigramme complet de l'entreprise, son activité, ses clients, ses valeurs, ses fournisseurs aussi. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Aujourd'hui, si l'employeur, enfin le recruteur voit que vous avez fait le curieux et que vous êtes allé voir sur LinkedIn, ça sera un bon point pour vous, bien plus que l'inverse en fait. Et l'autre chose, imaginez de relier toutes les informations que vous avez collectées pour dire « moi, je peux vous être utile dans cette situation-là ». Et le dernier point, c'est si vous avez le nom de la personne qui va vous interviewer, et regardez son parcours, ses priorités, et savoir s'il a déjà eu d'autres expériences avant de vous recruter. Ce qu'il faut savoir absolument avant l'entretien, c'est ce que fait l'entreprise, en une phrase claire. C'est quoi les enjeux des clients et c'est quoi votre expérience qui va correspondre à ce que vous avez regardé.
Et tu parlais de sport et tu faisais une comparaison avec un match. Damien, quand on sait que la durée moyenne d'un entretien, c'est de plus d'une heure et que maintenant, ça se fait aussi de plus en plus en visio, ça demande, je suppose, une préparation physique et mentale, bien dormir, bien manger les jours d'avant, être en forme, parce que ça demande de la concentration, mine de rien.
Ouais, effectivement, faut arriver en forme, hein. C'est se préparer, mais c'est, enfin, dans la préparation, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi répéter, hein. Se le répéter plusieurs fois pour se mettre les mots en bouche, ne pas écrire tout un long discours de ce que vous voulez dire. Voilà, effectivement, c'est éviter de manger les 5 minutes avant ou la demi-heure avant. Si on prend l'exemple du sport aujourd'hui, et je donne ce cas-là dans le sport, pour les artistes également, l'idée c'est de manger 3 à 4 heures avant de façon à ne plus pas être sur la digestion. De boire également longtemps avant de façon à, c'est assez basique, mais de pas avoir envie d'aller en toilette pendant l'entretien ou d'y aller juste avant l'entretien de façon à vraiment être libre. C'est des choses qui sont basiques mais qui sont hyper importantes. De sentir bien dans son corps pour transpirer ce bien-être auprès du recruteur.
Donc ça c'est pour l'avant, pour la préparation. On va évoquer le pendant également. Damien, j'ai un petit peu recensé les questions pièges, entre guillemets, en tout cas les questions qui posent problème parfois aux gens qui passent des entretiens d'embauche. La principale question qui généralement pose problème, c'est le fait de parler de soi. Souvent, l'intervieweur va dire « parlez-moi de vous ». Comment on fait quand on n'aime pas ça, Damien, parce qu'on est peu nombreux à aimer parler de soi, surtout à une personne qu'on ne connaît pas forcément, et on a parfois du mal aussi à se mettre en avant.
Je vais juste reprendre le mot que tu as dit, c'est pas des questions pièges. En fait, partez du principe que le recruteur ne cherche pas à vous piéger. Le recruteur cherche à voir si ça va matcher. Si on part dans cet état d'esprit où on se dit que le recruteur cherche à nous piéger, ben partez tout de suite de l'entretien. Hein. S'il cherche à recruter ou à piéger les personnes qu'il veut recruter, c'est qu'il n'est pas dans bon état d'esprit. J'imagine même pas comment le management dans l'entreprise. Le bon recruteur cherche à en savoir plus sur vous. Alors pour repartir sur ta question, de parler moi de vous, je vais te rassurer, l'idée, c'est pas de raconter votre vie. On ne vous demande pas votre roman, on vous demande juste de pitcher en 90 secondes qui vous êtes aujourd'hui, donc professionnellement qui vous êtes, des preuves concrètes et des résultats que vous avez obtenus, et un lien avec le poste. En fait, c'est ça que veut le recruteur, il veut pas que vous refassiez votre CV. C'est surtout pas ça, hein. Cette question-là, elle est grosso modo assez basique. Imagine, par exemple, Si on prend ton cas, c'est ben aujourd'hui je suis animateur d'un podcast indépendant, je crée et j'anime le podcast Vendéen, j'interviewe chaque semaine des invités autour de la culture, du sport et bien d'autres sujets comme l'emploi par exemple. Et mon rôle c'est de créer un climat de confiance et de faire émerger des histoires fortes et de garder l'auditeur avec nous jusqu'au bout de l'épisode. Donc ça c'est la partie d'aujourd'hui qui je suis. Par exemple, sur une série d'épisodes autour de l'emploi, j'ai réussi à faire passer la moyenne d'écoute de 60 à 78%, par exemple, en retravaillant le rythme des questions, en relançant avec les transitions et ainsi de suite. Les invités m'ont souvent dit qu'ils se sentaient suffisamment en confiance pour aborder des sujets qu'ils n'avaient jamais évoqués ailleurs. Et par exemple, ce poste m'intéresse particulièrement pour travailler chez France Télévisions parce que vous avez une mission de service public, informer, rassembler. C'est tout ça qu'ils veulent. En 30 secondes, on a fait qui je suis aujourd'hui, les exemples concrets et un lien avec l'embauche.
Bon, merci Damien, du coup j'ai juste à reprendre l'extrait pour mon prochain entretien d'embauche avec France Télévisions. Merci beaucoup d'avoir fait le travail à ma place. Quand on demande les qualités et les défauts, c'est là où c'est pas toujours évident, Damien, de s'auto-analyser, et notamment en ce qui concerne les défauts, parce que les qualités, on peut toujours évidemment en donner en essayant de ne pas franchir la frontière de la non-modestie, mais les défauts, c'est pas toujours facile. Parce qu'on a peut-être parfois peur de la réaction, même si on est capable d'en trouver, on a envie des fois de les cacher un petit peu.
Ouais, et je vais pour autant revenir sur les qualités. Dire je suis persévérant, je suis à l'écoute et tout ça, ça c'est que des mots. L'enjeu c'est donner des exemples. Si vous dites je suis persévérant, c'est dire ben voilà, j'ai présenté un projet au mois de janvier, le projet X, Y et Z, et j'avais ça comme objectif, et ainsi de suite. Je l'ai présenté une première fois en janvier, on m'a demandé de retravailler le sujet, je suis revenu sur le dossier en mars, j'ai eu une première réponse en juin, et finalement j'ai pu le mettre en place en septembre. Ça va montrer votre persévérance. Si vous dites juste je suis persévérant, mais ça va rester qu'un mot. Si vous le justifiez, ce sera beaucoup plus pertinent. Par rapport aux défauts, il faut choisir un vrai point de vigilance et montrer comment vous avez fait pour le gérer, en fait. Ne tombez pas dans l'erreur classique de dire « je suis perfectionniste », tombez pas dans l'erreur de dire « j'ai pas de défauts ». Ou dire par exemple un défaut qui pourrait être incompatible avec le poste. Si vous dites j'aime pas les chiffres et que vous postulez sur un poste de comptable, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des choses. Donc pour revenir au défaut, dites-le sincèrement, réfléchissez-y forcément avant et dites qu'est-ce que vous faites pour l'améliorer, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour dépasser ce défaut. Si vous restez juste à dire j'arrive en retard, c'est un défaut, et que vous ne faites rien pour le changer, mais forcément, ça va mettre une puce à l'oreille de la part du recruteur.
Autre chose importante, Damien, qui pose souvent problème aux personnes qui passent des entretiens, c'est comment structurer son argumentaire et ses réponses. Toi, en tant que formateur, en tant que coach, c'est quelque chose que tu maîtrises. Il y a deux types de personnes, évidemment. Il y a les personnes un petit peu timides, réservées, qui vont avoir du mal à trouver les mots. Il y a les personnes qui, au contraire, sont un peu bavardes et qui vont partir un peu dans tous les sens. Est-ce que tu as des tips, Damien, en tant que professionnel, pour structurer son argumentaire?
C'est fondamental. Pour moi, c'est au même titre que la préparation, la structure de nos réponses va être fondamentale. Pour moi, il y a trois étapes. Un, c'est donner le contexte, la situation. Ça, c'est la première étape. Il faut absolument que la personne à qui vous parlez, elle comprenne de quoi vous allez parler. La deuxième partie, c'est l'action. Qu'est-ce que vous avez fait? Et la troisième partie, c'est les résultats. À chaque fois, quelles que soient les questions, il faut absolument le schématiser par du concret pour le recruteur. Je vais vous donner un exemple sur la gestion de conflit. La situation, c'est dans mon équipe, il y avait deux collaborateurs qui avaient une vision opposée sur un projet important. Les tensions commençaient à impacter l'ambiance et le travail avançait moins vite. Donc ça, c'était la situation. Je vais donner le contexte. L'action, j'ai organisé un échange structuré avec eux pour clarifier les objectifs du projet et faire exprimer les points de blocage de chacun. Ensuite, nous avons réfléchi, redéfini ensemble les rôles et les priorités de chacun. Et tout le monde a su précisément quoi faire et qui était responsable. Et en fait, le résultat, on peut le dire, le projet a trouvé un rythme normal, les tensions sont apaisées et l'équipe a livré un projet dans les délais. Donc, je le répète, Un, on donne la situation, le contexte. Deux, les actions, qu'est-ce que j'ai fait concrètement. Et trois, c'est quels sont les résultats que j'ai pu obtenir.
Quand un employeur, futur employeur, Damien, demande, ce qui arrive d'ailleurs très régulièrement, est-ce que vous avez des questions? Quelles sont les questions à poser à son futur employeur?
Déjà, si vous dites, est-ce que vous avez des questions, la première chose que je peux vous conseiller, enfin vous dire de ne pas faire, c'est de dire non, j'ai pas de questions. Ça montrerait un réel manque d'intérêt sur l'entreprise. À mon sens, il faut préparer des questions pertinentes qui vont montrer au recruteur que vous vous projetez déjà dans l'action, que vous projetez déjà à la prise de poste. Ça peut être, par exemple, c'est quoi les priorités de l'entreprise dans les 3 prochains mois. Ça peut être pour mesurer la façon de manager, comment vous mesurez la réussite dans ce poste. Généralement, on a une fiche de poste, mais on n'a pas les grilles d'évaluation. Ben, c'est peut-être leur demander c'est quoi les grilles d'évaluation, ou combien d'entretiens vous faites par an avec vos collaborateurs. Ou la dernière chose qui va être déjà du style, ben, vous faites l'entretien, vous êtes déjà en train de vous projeter dans les premiers jours dans l'entreprise, c'est comment se passe l'intégration dans votre nouveau collaborateur dans votre entreprise. Ces réponses-là, elles vont aussi vous servir à vous de vérifier si le poste correspond vraiment à ce que vous attendez. Je vous le redis, je vous l'ai dit en tout début, un entretien d'embauche, c'est un entretien d'égal à égal. C'est deux personnes qui cherchent à savoir si ça va matcher. Mais pour savoir si vous, ça va matcher, il faut bien que vous ayez les réponses à vos questions. Forcément, on va éviter de poser des questions trop pragmatiques du style « combien c'est payé ?» ou ainsi de suite. Enfin, pas à ce moment-là, en tout cas, ça sera le jour où ils vont vous dire oui. Mais des questions où vous allez vous projeter dans l'action, je vous le redis, hein, l'intégration, les critères d'évaluation, les priorités du Mans, vont être des questions qui vont être bien perçues par le recruteur.
D'ailleurs, c'est important, tu l'évoquais, Damien, comment on gère la question des exigences salariales. Ça pose souvent problème là aussi, parce que on a envie évidemment de tomber dans la bonne fourchette, on n'a pas envie d'effrayer, mais on n'a pas envie non plus d'annoncer un chiffre trop bas. Comment on fait? On se renseigne d'abord avec Internet notamment?
Exactement, avec l'intelligence artificielle, c'est un super outil pour ça. Vous dites l'entreprise, vous dites le secteur géographique, le poste, vous pouvez même télécharger directement dans l'intelligence artificielle votre fiche de poste, votre CV avec votre expérience, et l'intelligence artificielle va vous donner une fourchette, et charge à vous de vous positionner. Se positionner n'est pas un signe de faiblesse, et c'est pas du chantage en fait, c'est dire, ben voilà, mon intention c'est d'avoir ça, l'entreprise a le droit de dire oui, elle a le droit de dire non, mais faut rester droit dans ses bottes quand on parle de ça. Un contrat de travail, c'est une mission, un salaire. À la fin de chaque mois, les données, elles sont remises à zéro, en fait. Vous avez travaillé, vous avez rempli votre fiche de poste. À la fin du mois, vous avez un salaire et c'est un échange. Vous estimez que ce travail-là vaut un salaire. L'entreprise a une vision. Peut-être c'est la même, peut-être c'est pas la même. Ensuite, on en discute.
Autre chose importante, Damien, qui revient régulièrement du côté des employeurs, c'est la communication non verbale. Alors, tout le monde ne sait pas ce que ça signifie, mais j'ai repéré deux statistiques importantes à prendre en compte. 40% des intervieweurs n'ont pas retenu les candidats en raison de leur manque de sourire, et 71% des employeurs considèrent que le code vestimentaire approprié est un facteur critique lors de l'évaluation des candidat à l'emploi. Donc la communication non verbale qui revient régulièrement comme un critère très important aux yeux des recruteurs, c'est tout ce qu'on ne dit pas, Damien. Ça peut être la manière de se tenir face à l'employeur, ça peut être le sourire évidemment, la manière dont on est habillé, la manière dont on se sert de ses mains quand on parle, c'est tout ça qui rentre aussi en compte.
Oui, tout à fait. Si on parle des vêtements, la première des choses, c'est d'avoir des vêtements qui soient appropriés à ce que le recruteur peut attendre, sans forcément se déguiser. Si vous êtes un couvreur, ne venez pas en costume. Mais si dans votre métier, vous devez être en costume, venez directement en costume. Tout simplement, imaginez-vous à la place du recruteur. Qu'est-ce que vous attendriez de la personne qui vient vous voir? Donc ça, c'est la partie vestimentaire. Parce qu'il faut bien comprendre que la personne, dans les 20 premières secondes, elle va déjà se faire une image très souvent inconsciente de la façon, des messages que vous lui transmettez. Quand on voit une personne dans la rue, très souvent, sa façon de se tenir, sa façon de s'habiller, nous envoie des messages inconscients. On va lui dire, tiens, il ressemble à quelqu'un qui... Et on va mettre des adjectifs, on va mettre des qualificatifs dessus, parce qu'on a un jugement inconscient sur ce qu'on voit. Il y a quelques repères qui sont assez simples. Déjà, il va y avoir la posture. On va se tenir assez droit, sans forcément être trop rigide, avec une posture plutôt ouverte, les épaules plus ouvertes que fermées. On va s'ancrer, les deux pieds complètement posés au sol. On va, de fait, ça va éviter d'avoir des mouvements un peu réactifs, avec vous imaginez le genou qui peut trembler. Donc les deux pieds complètement au sol, et si possible les deux mains au sol. Si on doit bouger les mains, ensuite on va faire en sorte de garder les coudes contre le corps, de façon à pas trop soulever les coudes quand on va parler, mais il est important d'appuyer son discours avec les mains également. Le regard, si vous avez un seul recruteur, vous le regardez, mais vous ne le fixez pas trop non plus, de façon à ne pas le mettre mal à l'aise. Et si vous avez deux recruteurs, il faut absolument regarder les deux. Même s'il y en a un qui vous plaît un petit peu moins, il faut quand même le regarder. Ensuite, le sourire. La première chose que vous pouvez faire dès que vous rentrez dans la pièce, c'est leur sourire, leur serrer la main si vous tendez la main, mais vraiment avoir une attitude positive et souriante. La voix la plus posée possible, n'hésitez pas à boire juste une petite gorgée d'eau avant de rentrer, et de pas trop en faire. Le signal que je peux vous donner, c'est essayer de vous synchroniser avec l'autre. C'est ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique la synchronisation. C'est essayer d'adopter la même posture physique que la personne qui vous recrute. Ça peut vous aider, et ça peut vous éviter de chercher quoi faire. Vous avez juste à imiter l'autre personne de façon toute naturelle, sans forcément être dans le mimétisme, mais de vous synchroniser. Dites-vous bien, tiens, je vais essayer de me mettre dans la même énergie que l'autre personne. Donc les choses à éviter, c'est les bras croisés, le regard qui fuit soit au ciel, soit sur la table, et trop bouger. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut éviter de faire. Et le petit truc, si vous avez du temps, n'hésitez pas à poser votre téléphone sur la table et faire comme si vous commenciez les 10-15 premières minutes de votre entretien en vous filmant pour regarder l'image que vous pouvez donner aux autres.
Ça, c'est un super conseil, effectivement, d'essayer de répéter, de se servir des outils à notre disposition désormais pour s'entraîner. Il nous reste deux petits points à aborder, Damien, notamment un point qui arrive régulièrement, c'est quelque chose qui revient notamment en 2026, où on n'a pas tous des parcours linéaires comme avant, où on restait un peu plus longtemps dans les différentes entreprises dans les années 90 et 2000. En 2026, on a un peu plus la bougeotte, et il y a quelque chose qui revient, c'est le fait de devoir expliquer un trou sur un CV, un trou dans un parcours. Et il ne faut pas forcément penser que c'est négatif, Damien, à condition évidemment d'expliquer ce trou et d'expliquer d'en ressortir du positif, en fait.
C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, les recruteurs savent très bien qu'ils ne recrutent plus pour toute une carrière. Ils le savent. Ils savent que des fois, les gens vont rester 2, 3 ans, d'autres vont rester 10 ans, d'autres vont rester 20 ans. Mais ils savent très bien qu'il y a une possibilité que vous ne restiez pas toute votre vie dans l'entreprise. Donc, ils le savent. C'est fondamental. Si vous avez un trou parce que vous avez fait un tour du monde, dites ce que vous avez appris dans votre tour du monde. En quoi vous revenez plus riche quand vous êtes parti? Si vous êtes juste... si vous dites juste, j'ai fait le tour du monde, je suis parti et j'ai vu 10 pays... Ça va pas lui suffire. Si vous lui dites, j'ai travaillé en Australie pour faire ceci, je suis allé au Japon, j'ai fait cela, je suis allé au Chili, j'ai fait ceci, et à chaque fois vous lui apportez des exemples concrets qui peuvent avoir une plus-value dans votre futur poste, allez-y. Mais vraiment, faut qu'il y ait un lien entre ce que vous avez fait et le futur poste. Ça, c'est vraiment l'idéal.
Et puis, dernière thématique à évoquer, Damien, parce que là aussi, elle est très importante. C'est l'avenir de certains qui se jouent, évidemment. Le premier entretien. On est jeune, on décroche un premier entretien d'embauche, donc on est plein gaz, comme on dit, mais il y a deux choses à gérer. Il y a d'une le stress, alors je vous conseille d'écouter l'émission précédente de Vendée Job, puisque Damien a donné pas mal de clés pour combattre et gérer son stress, mais il y a le stress, et puis il y a le manque d'expérience. Damien, quels seraient tes conseils pour quelqu'un, un jeune qui va passer son premier entretien d'embauche?
Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants ont fait de l'alternance. Le nombre d'alternants a vraiment explosé ces dernières années. Donc, n'hésitez pas à expliquer les missions que vous avez eues dans votre alternance. C'est malgré tout des premières expériences de travail. Et ensuite, si vous n'avez pas d'expérience, dites ce que vous avez envie de faire. Parlez de vos envies, de vos motivations. Qu'est-ce qui vous remue? Qu'est-ce qui vous donnera envie de venir avec une super énergie au boulot? N'inventez pas ce que vous n'avez pas. Par contre, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous avez quelque chose pour vous. C'est l'envie de découvrir, l'envie d'avancer, l'envie de donner pour l'entreprise. Et ça, il faut le vendre.
Et si vous avez des questions, évidemment, liées au thème de l'entretien d'embauche, n'hésitez pas à nous les poser sur les différents réseaux sociaux du podcast Vendéen ou sur le site internet www.lepodcastvendéen.fr. On y répondra dans les prochaines émissions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Damien Simonet, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes mes questions. Je rappelle, Damien, Kaizen Consulting au Sable d'Olonne, également le podcast Les Clés de la Sérénité. Merci Damien.
Merci beaucoup Benjamin, bonne journée.
Cet épisode de Vendée Job est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et à partager cette émission comme vous le faites d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vendée Job. D'ici là, bon courage pour vos entretiens, bonne chance et restez à l'écoute du podcast Vendéen.
Le podcast du podcast Vendéen consacré à l'emploi en Vendée. Vendée Job.